RFI, grand reportage, Xavier Besson.
Il y a un peu plus d'un an, la ministre de l'écologie française, Ségolène Royal, lançait un appel à projets pour le développement dans les campagnes françaises de 1500 installations de méthanisation. La méthanisation, c'est une méthode de production d'énergie renouvelable qui utilise certains déchets. Et elle avait besoin, cette filière, de ce coup de pouce car elle est très en retard sur, par exemple, l'éolien ou encore l'énergie solaire. Pourtant, il existe sur le territoire français des agriculteurs, des précurseurs qui se sont lancés dans cette aventure. Agnès Rougier les a rencontrés et c'est l'objet de son grand reportage, la méthanisation ou comment transformer les déchets en énergie.
J'étais à l'époque conseiller agricole et l'intérêt de la méthanisation, moi je la voyais à deux niveaux, à la fois pour plus d'autonomie sur la fertilisation des cultures pour les agriculteurs et en même temps qu'ils essayent de produire leur lait, leurs céréales avec un bilan gaz à effet de serre meilleur puisqu'on arrive à traiter une partie des gaz à effet de serre émis par leur fumier qui était hier non méthanisé, qui aujourd'hui le sont. Et donc on produit avec le même fumier de l'énergie renouvelable et moins de gaz à effet de serre qui s'échappent de leur tas de fumier.
On est un peu, en tant qu'agriculteur, souvent montré du doigt et on se fait taper dessus parce qu'on est souvent dénommé agriculteur pollueur par tous les produits chimiques qu'on peut pour utiliser et par les effluents qu'on épand qui ont une mauvaise odeur. Donc le fait de partir sur un développement qui va dans le sens de l'agriculteur raisonné et du développement durable, je pense que ça a été quand même un élément très moteur pour le groupe.
Le groupe, c'est la soixantaine d'agriculteurs qui se sont fédérés à partir de 2006 autour du projet Tipeur Méthanisation. Tipeur signifie technologie innovante pour la production d'énergie renouvelable. À l'origine du projet, il y avait notamment Grégory Vrignaud de la Chambre d'agriculture en Poitou-Charentes, Thierry de Sèvres que nous venons d'entendre et les autres agriculteurs qui ont monté ensemble l'association ABBT, devenue aujourd'hui la société qui regroupe les petits investisseurs du projet. La méthanisation, c'est magique parce que cela permet de transformer les déchets en énergie. On remplit une cuve étanche, un digesteur, avec du fumier par exemple. Et à 50 degrés, en l'absence d'oxygène, des bactéries décomposent son contenu. C'est la fermentation qui produit du gaz méthane. Et ce qui reste à la fin au fond de la cuve s'appelle le digesta. Or, ce digesta est riche en potassium, en azote et en phosphore, ce qui en fait un excellent engrais. Le processus complet forme donc un cercle vertueux, mais cher et complexe à mettre en œuvre. Pierre-Emmanuel de Sèvres, le second initiateur du projet.
Ben on a vécu toutes les difficultés puisque c'est vrai qu'en étant précurseur en 2006, on se retrouvait sur une activité qui n'avait pas en face de réglementation. Donc pour les administrations, c'est pas qu'elles avaient de mauvaise volonté, c'est que c'était tout nouveau aussi pour elles. La réglementation méthanisation n'existait pas. Concernant, on va dire, le monde économique, les pouvoirs publics, ce qui était difficile aussi, c'est qu'on est sur un secteur, l'énergie, qui était un secteur très centralisé avec des très grands groupes protégés. Or, les énergies renouvelables ont cet avantage aussi de pouvoir favoriser l'arrivée de nouveaux entrants, des petits producteurs locaux, qui peuvent, indépendamment de ces grands groupes, monter leurs propres projets.
L'usine a ouvert en 2013. Il aura donc fallu 7 ans pour que le projet devienne réalité. Direction maintenant la ferme de Thierry et Marion de Sèvres. Ils ont 95 vaches laitières et 145 hectares de céréales.
Jérémy, on doit bien s'amuser avec les bâches.
Oui, mais.
Que le vent.
On encile demain, donc on positionne les bâches. Le mur. Donc, ça, c'est les caissons dans lesquels repartent les fumiers. Donc, c'est les caissons de 25 mètres cubes qui nous permettent de les remplir de fumier dès qu'on cure les animaux, en fait.
Et nous voilà dans le bâtiment
donc là, on rentre dans le bâtiment avec les vaches laitières et puis les génisses donc de l'autre côté du couloir d'alimentation. Donc l'air paillé qu'on voit qui est nettoyé donc tous les 15 jours. Donc ça veut dire que tous les 15 jours, on a une noriade de caissons qui est remplie et qui est envoyée à Tipeur Méthanisation.
Ça fait combien de caissons
Quand on cure que la partie vache, on est à 6 caissons à peu près et on... Si on cure l'ensemble du bâtiment, il faut compter 10 caissons sur la journée qui vont partir.
Les caissons, en fait, vous les remplissez, c'est un camion qui vient les chercher.
Oui, c'est un camion d'un transporteur en fait, qui assure tout le transport pour l'unité de tous les fumiers et autres matières qui peuvent rentrer sur l'usine.
Ce fumier là que vous envoyez à l'usine d'hypermethanisation, sinon vous l'utiliseriez directement en fait.
Jusque là en fait c'était du fumier qui était utilisé directement en amendement des parcelles sur l'exploitation. La différence, c'est que bah, le fait que ça passe par la méthanisation, on récupère le méthane qui s'échappe du fumier. Voilà.
Pour économiser le carburant des camions et les émissions de gaz à effet de serre, toutes les fermes se trouvent dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Partons maintenant pour l'usine Méthanéo. Méthanéo est aussi actionnaire et partenaire du projet Tipeur. L'usine est située dans la zone industrielle du village de Louzy, à quelques 6 km de la ville de Thouars. Visite avec Jean-Paul Coste, le directeur.
Le principe de l'usine, c'est que tout ce qui rentre et tout ce qui sort est pesé. Donc, finalement, le premier outil important de l'usine, c'est un pont bascule. Donc, cette usine, c'est une usine assez conséquente, hein, capable d'absorber 75 000 tonnes dans l'année, des déchets de différentes natures. Et donc, on a organisé l'usine sur un principe linéaire dans lequel les salles de chargement dédiées vont être capables de traiter soit des déchets venant de l'industrie agroalimentaire, soit les déchets qui viennent des agriculteurs apporteurs de biomasse, soit des déchets qui arrivent des abattoirs, du sang, etc., etc. À l'arrivée de l'usine, ils ont des voies d'incorporation dédiées. Et puis ensuite, tout ça s'est mélangé dans le digesteur, un peu comme votre repas, la viande, puis les légumes, puis ceci, puis etc. Donc la première salle ici, c'est la salle où on est capable de traiter des déchets dits carnés. Donc ce sont des déchets qui viennent d'abattoirs, etc. Là, attention, c'est une salle qui est un peu odorante.
Effectivement.
Voilà, on va pas y rester très longtemps, c'est en train de s'allumer. Donc là, le principe, cette porte s'ouvre, le camion va décharger ici des déchets carnés, donc ça va être des résidus d'abattage.
Et là,
ici, vous avez à peu près 600 tonnes de fumier qui vont être travaillées par un grappin. Ce grappin va faire des opérations de mélange dans le tas, et puis cette matière va aller vers finalement un système d'ingestion dans le digesteur.
En sortie de méthanisation, l'usine Méthanéo produit de la chaleur et de l'électricité. Il y a d'un côté deux moteurs qui transforment le méthane en électricité pour la vendre à l'entreprise Céolis, la déclinaison locale d'EDF. De l'autre côté, un tuyau emporte la chaleur sous forme de vapeur vers l'usine de fabrication d'aliments pour bétail Belle Lannée. Les deux entreprises sont partenaires du projet Tipeur Méthanisation. Nous sommes avec Pascal Huot, directeur technique de Belle Lannée.
Alors, on s'est inscrit naturellement dans ce projet, d'une part parce que nos clients étaient également intéressés. Nos clients, ce sont les agriculteurs. Sur la partie vapeur, effectivement, nous étions intéressés, dans la mesure où, effectivement, la méthanisation venait substituer le gaz naturel par le gaz produit par la méthanisation. Et ça nous permettait de couvrir entre 60 et 75% de nos besoins. Sur la partie investissement, donc Belle Lannée est rentrée au même titre que les agriculteurs dans la BBT. Donc d'abord une association, puis une société dans laquelle effectivement Belle Lannée a participé financièrement au projet sur un niveau de participation identique aux plus gros agriculteurs.
Donc l'usine de méthanisation s'est construite vraiment juste à côté de la vôtre, c'était volontaire?
C'était volontaire et indispensable. Dans la mesure où, pour transporter la vapeur, il faut peu de distance. Donc aujourd'hui, on a à peu près 400 mètres entre l'usine de méthanisation et l'usine Belle Lannée, sachant que au-delà de 800 mètres, on commence à avoir des problèmes techniques avec une vapeur qui va se transformer en eau. Donc il était indispensable, effectivement, que l'usine de méthanisation soit le plus près possible de l'usine consommatrice.
Allons voir maintenant le troisième actionnaire de Tipeur, l'électricien Céolis, qui achète l'électricité en sortie d'usine à 14 centimes du kilowattheure, c'est-à-dire au tarif fixé par l'État en 2011. Philippe Dutruc, président de Céolis.
Alors c'est une usine qui fait à peu près 2 mégawatts à régime nominal de puissance, donc on a à peu près l'équivalent de 12 000 habitants hors chauffage, hors chauffage électrique bien sûr, ça fait de l'ordre de 16 gigawattheures.
Alors depuis 2 ans, voilà, il y a une production d'électricité qui sort de hypermethanisation. C'est bien ce qui était prévu en termes de quantité.
Le démarrage a été assez difficile. Il a fallu faire les rodages, on va dire comme ça, la montée en puissance et les rodages. Mais depuis maintenant pratiquement un peu presque un an, on arrive au niveau optimum, c'est-à-dire à la puissance nominale prévue par le contrat.
L'usine fonctionne maintenant à plein régime, mais l'année 2014 a été difficile, car il y a eu des dépenses imprévues. Jean-Paul Coste, son directeur.
Ces unités ont connu des difficultés techniques liées au modèle de développement français basé sur des effluents d'élevage collectés sur des fermes, et donc ont rencontré des difficultés avec une présence de corps étrangers dans les effluents d'élevage des animaux, les fumiers, les lisiers.
Peut-être qu'il faut dire qu'il faut d'abord écraser les effluents d'élevage, et on ne les rentre pas directement comme ça dans le méthaniseur.
Oui, donc le principe est de rentrer de la matière organique dans un méthaniseur qui est un digesteur. C'est plus ou moins un estomac. Et une réaction favorisée par des bactéries va générer du biogaz. Et ce biogaz va être valorisé ensuite en énergie. Pour pouvoir acheminer cette matière vers le digesteur, il y a un cycle de préparation. Et finalement, c'est, à l'instar de ce qui se passe dans le cadre de l'alimentation, une étape de broyage, une étape d'humidification et puis ensuite un transit vers le digesteur. On comprend bien, et ça nous est tous arrivé, que quand il y a des petits cailloux dans la salade, c'est très désagréable. Bah, c'est pareil pour une unité de méthanisation, sauf que là, il y a des facteurs d'échelle assez conséquents. Tipeur méthanisation a la capacité de traiter 75 000 tonnes de déchets par an, dont 40 000 tonnes à peu près de fumier venant de plus de 70 exploitations agricoles réparties autour de l'usine. Un caillou, quelque chose qui est tombé par mégarde dans le fumier, une ficelle de botte de paille, dès que ça bloque, bah, ça occasionne un arrêt de production et donc des charges d'exploitation qui ont déséquilibré le modèle économique imaginé dès le départ.
Ces problèmes surviennent parce que l'usine a été construite avec du matériel allemand et danois, peu adapté au modèle français, parce que les pays du Nord font pousser du maïs pour le méthaniser, alors qu'en France, on méthanise des déchets variés. Mais il y a au moins une solution. L'électricien Philippe Dutruc de Céolis est optimiste.
Il reste un problème financier, mais qui est en train de s'être réglé par la nouvelle loi de transition énergétique qui a repris en compte le fait que nous n'étions pas, comme nos amis allemands ou danois, des méthaniseurs avec des produits faits pour la méthanisation, mais des méthaniseurs avec destruction de déchets. Et donc le tarif est en train d'être revalorisé, ce qui permettra aux unités existantes de vivre.
Et ces nouveaux tarifs de rachat de l'électricité sont attendus impatiemment par les exploitants. Dernier point, est-ce que la méthanisation sent mauvais? Une question qui se pose régulièrement dans ce type de projet. Michel Doré, le maire de Louzy, où l'usine Méthanéo est implantée.
Alors les dirigeants de l'époque nous avaient dit « Mais non, vous inquiétez pas, c'est un petit peu comme Tchernobyl, à partir du grillage, il n'y a plus d'odeur. » Mais malheureusement, aujourd'hui, je reviens toujours sur ce point, c'est ce problème d'odeur qui est récurrent, irrégulier, mais qui vient d'une façon inopinée. Et lorsque vous êtes sur votre terrasse le soir après une journée de labeur et que vous voulez vous relaxer, que les odeurs commencent à imprégner donc l'atmosphère, eh bien vous n'avez plus qu'une solution, c'est de tout refermer et de vous replier dans l'intérieur de la maison.
Une question subsidiaire, Gregory Vigneault, je viens d'aller voir le maire de Louzy. Il paraît qu'il y a des gens qui se plaignent de l'odeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça sent un peu. Est-ce que vous avez des solutions? Qu'est-ce que vous leur répondez?
On a mis en place avec un groupe de citoyens autour de l'usine, hein, une sorte de sentinelle, avec des relevés d'odeur pour savoir quand est-ce qu'ils sentent, notamment, et qu'est-ce qu'ils sentent, puisqu'on a fait un point zéro initial avant le démarrage de l'usine. Et avant ça, on est dans une zone où on sent beaucoup de choses. Notre odeur est assez caractéristique, donc je fais confiance aux sentinelles pour qu'ils reconnaissent nous par rapport à d'autres entreprises. Donc là, on a deux provenances des odeurs, qui sont principalement les sous-produits animaux, c'est-à-dire notamment le sang, et ensuite une autre fosse qui n'est pas encore reliée au traitement d'odeur. Donc en fonction du bilan de ces sentinelles, qu'on appelle comme ça, le retour de leur mail, on va pouvoir voir à quel moment ça sent, quelle fréquence, pour adapter le traitement d'odeur et refaire des investissements pour limiter ce problème-là.
Une installation de méthanisation est donc relativement coûteuse à mettre en place. Et pour Tipeur Méthanisation, l'un des premiers projets de ce type, ça s'est avéré compliqué. Mais le bilan sera positif si le tarif d'achat de l'électricité est relevé et de l'avis général. La méthanisation est une solution d'avenir si l'on veut vraiment limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. La méthanisation ou comment transformer les déchets en énergie. Un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisé par Swahy Kedir.
Agnès Rougier, bonjour.
Bonjour Xavier.
Alors si la méthanisation semble effectivement un procédé d'avenir, la mise en place des projets reste compliquée.
Oui, pour l'instant, ça l'est encore pour les raisons qui sont évoquées dans le reportage, mais aussi parce que le matériel est cher. L'installation de l'usine Tipeur Méthanisation et les maintenances dues à la casse ont finalement coûté au total plus de 16 millions d'euros. Et pour un méthaniseur à la ferme, eh bien, il faut compter plus de 600 000 euros.
Alors pourquoi, Agnès ?
Eh bien, en France, en fait, on a fait le choix dans les années 60 du tout nucléaire. Et donc, il n'y a pas eu de recherche et de développement sur les énergies renouvelables, ou en tout cas, ça a pris beaucoup de temps, d'où en particulier l'absence de matériel adapté et l'obligation de l'importer.
Combien y a-t-il d'installations de méthanisation aujourd'hui en France ?
Alors, je n'ai pas les chiffres exacts pour 2015, mais en 2014, on comptait environ 330 unités sur le territoire, dont 140 à la ferme, 99 industriels, comme le projet Tipeur. Mais la France est très en retard sur le reste de l'Europe, et l'Allemagne est largement en tête. Et pourtant, selon l'Association européenne pour la biomasse, la France a un potentiel de production de biogaz au moins aussi élevé que l'Allemagne. Le nombre de méthaniseurs devrait donc croître dans les prochaines années. Et d'ailleurs, il y a pas mal de projets dans les cartons en ce moment, mais pour que ça fonctionne correctement, il faut un vrai soutien de l'État.
Oui, d'ailleurs, on a bien entendu dans votre reportage que si du côté technique, finalement, ça marche correctement, aujourd'hui, les investissements ne sont pas rentables.
Oui, c'est compliqué parce qu'il y a des interférences réglementaires. Prenons le cas de Tipeur. Le projet a mis quasiment 10 ans à voir le jour et pendant ce temps-là, la législation a changé sur au moins deux points importants. Le premier, c'est qu'en plus du fumier et du lisier, Tipeur avait prévu dès le départ de méthaniser des déchets d'abattoir, ce qui demande une installation spéciale. Et depuis la crise de la vache folle, l'industrie agroalimentaire payait pour se débarrasser de ces déchets qui étaient interdits dans la fabrication d'aliments pour animaux. Or, en février 2013, la Commission européenne a décidé que les farines de porc et de volaille seraient de nouveau autorisées dans la nourriture à poissons. Maintenant, Tipeur est donc en concurrence avec les fabricants d'aliments pour poissons et doit acheter les déchets agroalimentaires. Évidemment, ça change complètement la donne. Le second point, c'est l'autorisation qui a été donnée en 2011 d'injecter du biogaz dans le réseau national, alors que jusqu'ici c'était interdit. Donc l'usine Tipeur n'a pas été conçue pour le faire, alors que ça pourrait rapporter des rentrées d'argent supplémentaires. Mais pour ça, il va falloir modifier le matériel, ce qui veut dire un nouvel investissement. Et quand une usine perd de l'argent, c'est un peu difficile d'aller demander de l'argent aux actionnaires.
C'est-à-dire, Agnès, que globalement, la méthanisation est une solution positive, mais la filière française souffre de maladies infantiles, en quelque sorte.
En fait, c'est exactement ça. La méthanisation s'inscrit dans une économie circulaire où les déchets sont valorisés et fournissent une énergie renouvelable tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, les agriculteurs sont volontaires. Donc bon, ça semble parfait. Si l'État français assumait une politique cohérente et soutenait vraiment la filière, ça pourrait fonctionner. Mais quelle politique énergétique l'État français veut-il pour demain ? La loi de transition énergétique qui a été votée en août dernier semble bien aller dans le bon sens. Le premier décret d'application qui nomme un comité d'experts sur la programmation pluriannuelle de l'énergie est paru le 4 octobre. Et maintenant, eh bien, on attend la suite.
Agnès Rougier, merci d'avoir été avec nous. Votre grand reportage sur la méthanisation, on peut le retrouver dans son intégralité sur notre site internet sur rfi.fr.
RFI, la sélection du mois.